Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer dans cette émission Parole aux auditeurs, cadre d'échange citoyen. Nous sommes donc très heureux de partager ces sujets sur la journée des droits de l'homme qui est célébrée le 10 décembre de chaque année. Et le thème choisi pour cette année est dignité, liberté et justice pour tous. À RDC, cette célébration coïncide avec la proposition de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Alors, vous savez que la grande question, ou deux questions sont soulevées dans ces débats. Comment jugez-vous le travail des défenseurs des droits de l'homme en séjour à RDC et comment promouvoir ce travail pour une justice pour tous? Vous pouvez participer à ces débats en composant les 081 890 63 30 ou encore sur notre plateforme de Facebook. Vous pouvez également interchanger avec d'autres compatriotes sur www.radiocapi.net. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie dans cette émission qui se termine donc la fin de la semaine. Dieudonné Nyangasa assure la mise en onde de cette émission réalisée par Priscille Kabuya Moudiaï. Le programme est coordonné et présenté par J.R. Longembo Labung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le réel plaisir d'accueillir dans ces studios, avant d'ouvrir les standards et d'accueillir Omar Maître Edmond, ainsi que Maître Alidor, qui ont émis les vœux, comme vous, de pouvoir participer dans ces débats de parole aux auditeurs de ce jour. Nous recevons donc Jean-Paul Seguiobé, qui est avec nous. Monsieur les députés, bonjour.
Bonjour, J.R.
Vous êtes élu des Rutshuru. Merci d'être venu nous visiter et pour nous parler de cette loi. Alors, la grande question, dans quel contexte on peut justifier la proposition de cette loi?
Voilà, le contexte, je pense qu'il s'y prête. Le contexte qui justifie la loi, c'est celui, effectivement, j'allais dire, de mise à mal des travaux des défenseurs des droits de l'homme. C'est un contexte des représailles, c'est un contexte d'intimidation, c'est un contexte de détention, c'est un contexte d'enlèvement. Bref, un contexte avec une page noire qui ne permet pas les défenseurs des droits de l'homme, pourtant essentiels pour une gouvernance démocratique d'un pays. Bien, un contexte qui n'arrive pas à permettre à ce que nos amis, les défenseurs des droits de l'homme, travaillent en toute quiétude.
Qu'est-ce qui expliquerait l'accélération avec laquelle les députés ont porté cette loi, ont endossé cette loi, tandis qu'il y a eu deux tentatives par le passé qui ont semblé accoucher d'une souris en 2010 et puis après en 2017?
Bien, je pense justement, comme vous venez de le dire, le contexte lui-même qui amène à ce que finalement les députés se disent: nous devons répondre à ces préoccupations. On est là, la loi vient résoudre un problème. Et je crois que le contexte politique lui-même, il faut le dire, avec le président de la République qui a mis un accent sur le fait qu'on doit pouvoir trouver des lois qui répondent à des préoccupations. Et là, les conditions de travail du défenseur des droits de l'homme est l'une de ces préoccupations. C'est un contexte. Le contexte aussi international, qui voudrait que le Congo s'arrime à des engagements internationaux qui concernent la protection des défenseurs des droits de l'homme, mais là, tout simplement le respect des droits de l'homme. C'est ce contexte aussi. Mais aussi, je pense qu'il y a une nécessité et surtout l'urgence de voir que tout ce que nous vivons doit pouvoir être corrélé, doit pouvoir être aussi peut-être analysé et pris en compte par un travail d'autres personnes en dehors des personnes qui travaillent pour le compte du gouvernement ou les officiels. Donc il y a, j'allais dire, une combinaison de beaucoup de choses qui ont amené à ce que les députés, cette fois-là, se disent non, cette loi doit pouvoir passer.
La première fois, c'est l'Assemblée nationale qui a proposé la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme.
Non, la première fois, c'était le... Un projet de loi.
Un projet de
donc
loi.
Ça venait du gouvernement, c'était du temps du ministre Luzolobambi.
Luzolobambi, et puis Moulaïla, le sénateur.
Le sénateur Moulaïla, et là, c'est une 2017. Proposition de loi en 2017. Et moi, c'est à cette législature.
Cette législature. Alors, quelle est la différence entre ce que le gouvernement a apporté comme loi, projet de loi, et puis le projet de loi de Moulaïla, et puis ce que vous avez apporté. En d'autres termes, quelles sont les innovations? Qu'est-ce que vous amenez de nouveau?
Je pense qu'il faut, pour le projet de loi, il faut distinguer projet et proposition de loi. Le projet provient du gouvernement. À l'époque, quand le gouvernement amène son projet, on est dans un contexte post-assassinat à Tchébéa. Il faut tout de suite situer à ce niveau-là. Et là, il y a eu pratiquement une toée de contestations, de remous, de beaucoup d'inquiétudes. Et là, le gouvernement était obligé tout de suite de pouvoir faire quelque chose pour protéger ses défenseurs des droits de l'homme. Mais ça n'a pas pu aboutir parce que cela est arrivé presque vers la fin de la législature. Mais l'Assemblée nationale, la commission PAJ, avait déjà travaillé sur les textes. Alors, le contexte qui va suivre, c'est avec la législature de 2011 jusqu'en 2017. Là aussi, les conditions des défenseurs des droits de l'homme s'étaient pas améliorées, n'ont pas changé. Vous connaissez les assassinats ou les enlèvements, les difficultés de certains journalistes, de certains défenseurs des droits de l'homme. Alors, là aussi, ça n'a pas abouti parce que, finalement, au niveau des deux chambres du Parlement, il y a eu des divergences. Le texte de Moulaïla a été adopté presque comme tel au niveau du Sénat. Et celui-là, il s'inspirait beaucoup plus de la résolution des Nations Unies adoptée en 98 et la résolution de l'Union africaine de 2004 qui recommande effectivement aux États de pouvoir adopter une législation qui protège ces défenseurs des droits de l'homme. Alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la vision ou la compréhension était tout autre. On voulait avoir un défenseur des droits de l'homme professionnalisé. Mmh. Et là même les titres, il y a eu des divergences. Les titres, là on parlait de la loi portant statut, régime du défenseur des droits de l'homme. Ça c'est à l'Assemblée nationale. Mmh. Alors qu'au niveau du Sénat, c'était loi portant protection et défenseur du défenseur, responsabilité du défenseur des droits de l'homme. Et moi, j'ai pris cette option en termes d'intitulé.
Vous avez trouvé les milieux.
Oui, j'ai trouvé les milieux. Mais pour l'intitulé, je me suis beaucoup plus penché vers l'ancienne proposition du Sénat, qui est plus proche des instruments internationaux, mais en même temps qui est plus proche des desiderata. C'est vrai, il faut des droits, mais il faut aussi des devoirs, mais aussi la responsabilité de l'État. Alors que de l'autre côté, à l'Assemblée nationale à l'époque, c'était plus un régime, pourtant c'est un régime du défenseur des droits de l'homme, sans mettre un accent sur les droits, mais surtout les responsabilités. Voilà.
Alors,
l'État.
Parce que vous parlez des questions de responsabilité, avant d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints pour ces débats, parlons-en, quelles sont les innovations que vous avez apportées en termes de responsabilité des uns et des autres?
Bon, d'abord, il faut dire que les défenseurs des droits de l'homme, ce n'est pas un chèque en blanc. Vous savez bien, et le contexte de notre pays...
Ou bien un électron libre.
Un électron libre, mais il y a beaucoup d'improvisation. On voudrait protéger justement ces défenseurs des droits de l'homme pour qu'à côté de lui, on ne trouve pas des moutons noirs. On peut trouver des faux défenseurs des droits de l'homme qui viennent saper le travail du vrai défenseur des droits de l'homme. Alors là, parmi les obligations, c'est de pouvoir d'abord se faire connaître. Plus ou moins. Du moins, lorsque vous prenez la définition, au niveau de l'article 2, la définition du défenseur des droits de l'homme qui agit en groupe. L'idée, c'est de pouvoir dire, voilà, il faut un numéro et se faire identifier pour qu'il soit connu, de sorte qu'il soit mieux protégé. Alors, deuxième élément, et là, c'est par rapport aux obligations, c'est que l'État a l'obligation, cette fois-là, de pouvoir protéger. Mais parce qu'on sait que souvent, les défenseurs des droits de l'homme sont martyrisés par les faits des agents.
Il faut vraiment une compréhension commune, parce que protection dont on parle, il faut que l'État puisse comprendre de quelle protection qu'il s'agit.
Non, on a eu le temps de pouvoir effectivement définir les termes protection, promotion, responsabilité au niveau de la loi. Et là, au niveau de la protection, nous avons dit que c'est l'ensemble des mesures concrètes qui permettent justement de faire bénéficier
aux personnes... Parce qu'un défenseur des droits de l'homme qui tombe sous le coup de la diffamation, qui tombe sous le coup, par exemple, insultes contre les chefs de l'État...
Non, mais là, il répond. Oui. Il répond, ça, ce n'est pas le travail d'un défenseur des droits de l'homme. Il n'est pas là pour diffamer, il n'est pas là pour injurier. Donc là, il reste aussi un citoyen comme les autres.
Voilà.
Si jamais il est coupable d'une infraction, il doit répondre. Et là, vraiment, on l'a précisé, défenseur des droits de l'homme ne signifie pas que c'est un citoyen extraordinaire. Il reste soumis aux règles et aux lois de la République.
Voilà, 081-890-6330, encore les 081-890-6330, pour votre intervention en direct. Comment jugez-vous le travail des défenseurs des droits de l'homme et comment promouvoir ce travail pour une justice pour tous? Et par rapport à cette loi et les innovations qu'elle apporte, avez-vous quelques recommandations?
Parole aux auditeurs.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue. La parole aux auditeurs qui se poursuit, qui entame ce quart d'heure, dans cette première demi-heure de cette émission. Avec vous, Maître Omar, vous nous appelez de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, très cher JR, et bonjour, professeur Séguio Béjean-Paul.
Vous avez la parole. Quelle est votre proposition?
Merci beaucoup. Je salue les professeurs qui m'ont enseigné le cours de la philosophie du droit à l'uniqui, et je lui dis merci pour son encadrement. Par rapport au débat de ces jours, très cher JR, il faudra placer et planter très bien les décors, surtout à l'égard des autorités publiques. Les droits de l'homme sont inhérents à la vie de l'homme. Ils n'ont pas besoin d'abord d'un texte. Avec ou sans loi, ils sont censés être respectés. Ce sont des attributions, des avantages accordés à chaque individu, futur ministre ou simple et particulier, en tant que sujet de droit. Et la loi même précise qu'avec ou sans texte précis, on est censé les respecter. D'ailleurs, j'aime ce que le professeur je lui dit, la protection et la promotion des droits de l'homme constituent le pilier fondamental de l'état des droits. L'état des droits n'est pas crié sous les bambous, n'est pas insulter les politiciens, c'est d'abord le respect et la promotion des droits de l'homme. Mmh. Par rapport à la question principale, je voudrais dire à tout le monde qu'il faudra faire la différence entre la théorie et la pratique. Les droits de l'homme dans une société, en l'état de la RDC, n'ont de sens que un, s'ils sont respectés par l'autorité publique d'abord. Est-ce que les gouvernants congolais, les policiers, respectent, moi qui vous parle, j'ai été giflé quand je fus étudiant en jeu 3, parce que je voulais intervenir vis-à-vis d'une femme qui était victime par un policier. Il m'a giflé. Donc, si on ne sait pas respecter l'homme par rapport à l'homme politique, à l'autorité publique, au gouvernant, il n'y aura jamais. Deuxième chose, les droits de l'homme ne sont non des sens que s'ils sont défendus. Un droit, il ne faut pas seulement le déclarer. Il faut savoir le défendre.
Alors, là, je crois que nous devons corriger cette confusion. Il faut quand même que tout le monde soit fixé. Est-ce que quelqu'un qui est devant un policier qui commet un acte qui n'est pas correct convenablement à la loi, est-ce qu'un individu, un citoyen, a-t-il le droit de s'opposer? Et on peut l'appeler, il peut porter les noms, il peut porter la qualité de défenseur des droits de l'homme.
Absolument.
Le défenseur des droits de l'homme.
Avant que...
Oui, un instant Omar, le professeur veut nous éclairer là-dessus.
Omar, d'accord. Je te remercie. Absolument, JR. Mm-hmm. Lorsque ce n'est pas seulement les policiers, mais toute personne qui porte atteinte à un droit.
Parce que nous tous, ça nous arrive.
Oui. Devant les policiers, les défenseurs des droits de l'homme,
en tout cas, injustement,
il doit aller faire voir aux policiers.
La moto de quelqu'un, on défend,
oui,
et puis il dit, c'est pas votre droit.
Non, il doit faire voir aux policiers que cette manière de faire enfreint les règles et les droits de la République, enfreint les droits fondamentaux de la personne. Donc toute personne, et ça c'est l'une des innovations, toute personne de manière individuelle et occasionnelle peut bien le faire. Et il faut qu'on arrive à cela. Et là, mais évidemment, il faut trouver une manière de pouvoir s'adresser aux policiers. Parce qu'il ne faudra pas non plus le faire de manière violente.
Mais oui, si vous y allez de manière courtoise... On limite les défenseurs des droits de l'homme, Georges Kapiamba, Katende, et les noms qui sont connus. Bon, excusez-moi de les citer, parce que ce sont des amis des Radio Capi, hein, que nous recevons par rapport à cette question. Donc, tout individu peut poser
absolument un acte. Absolument tout individu, et comme Omar l'avait fait, il a été giflé, mais là, il agissait comme quelqu'un qui défendait les droits d'une femme. Et là, il est essentiellement dans le cadre de cette loi que nous venons de proposer.
Voilà, Omar, vous pouvez poursuivre.
Très cher Gilles, je disais donc, le droit de l'homme dans des sens qui sont défendus. Et la loi donne la possibilité à toute personne de défendre un droit de l'homme violé. Mmh. Donc c'est un peu ça. De deux, je disais, de trois, il faut la sanction. Parce que nous sommes en train de proposer des solutions.
La sanction. Mmh.
Les pouvoirs judiciaires, selon la Constitution, ont les pouvoirs de sanctionner toute violation des droits de l'homme. On a comme l'impression que les violations des droits de l'homme ne sont pas très bien sanctionnées. Voilà pourquoi il y a croissance exonérée. Troisièmement, il faut la promotion. Ça, c'est les quatrièmes piliers. On ne peut pas tout en empêcher, on le fait la promo. Parce que beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup d'autorités ne savent pas que le droit à la vie, la liberté d'expression sont des valeurs sans lesquelles le pays perd son sens. Alors par rapport aux innovations, ce que j'aime, voilà pourquoi je voulais en venir. Cette innovation, la première, a été de professionnaliser ce travail. Parce que toute personne, de manière naturelle, peut défendre un droit qui est violé. Mais ici, on parle des statuts particuliers des personnes qui, pour toute leur vie, ont opté pour la vie de défenseurs des droits de l'homme. Ici, il y avait journaliste, Omar est avocat, Prof. Jean-Paul est professeur. Il y a des gens qui, vous voyez dans leur cadre, défenseurs des droits de l'homme de manière professionnelle, permanente. Parce que si vous lisez la loi, on parle même des critères pour être qualifié d'être défenseurs des droits de l'homme en titre particulier. Donc ça, c'est la première innovation. La deuxième, c'est les renforcements de la répression. Ça, je l'ai mis dans la loi proposée. On a dit l'un des mécanismes pour que le droit de l'homme soit respecté, il faut punir efficacement les violations. On a toujours déploré au Congo, les gens meurent tous les jours, on a perdu des jeunes.
Voilà. Alors, parce que c'était un échange citoyen, on va vous libérer dans une minute. Nous vous gardons encore un moment. Omar, il est temps d'accueillir Maître Lidor. Voilà, c'est un débat du juridisme, en tout cas ici, mais on ne sait pas. Bon, ceux qui sont concernés, ils savent que bon, ils sont pas initiés par rapport au droit. Ils peuvent également appeler au 081-890-6330. Mais Maître Alidor, vous avez également la parole.
Oui, bonjour, Maître Gilles.
Oui, Maître Omar, vous restez en ligne.
Oui, alors, Maître Gilles.
Oui, allez-y, allez-y.
Bonjour à vous, bonjour au professeur, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi. Nous saluons à ce jour le travail des défenseurs des droits de l'homme, parce que ça concourt à l'avènement d'un État véritablement des droits et aussi au renforcement de la démocratie dans notre pays. Et ça tombe à point nommé parce qu'il y a un peu de l'amalgame. On ne sait pas réellement qui est défenseur des droits de l'homme et qui ne l'est pas. Il y a aujourd'hui les gens qui se réveillent l'un des quatre matins, ils s'improvisent défenseur des droits de l'homme sans toutefois connaître même les droits des personnes vulnérables à pouvoir défendre. Parce que ne pas défendre l'autre que celui qui connaît ses droits et qui connaît aussi les droits de l'autre qui sont violés. Mais manque d'un professionnalisme, manque d'un critère, et avec l'absence de la loi qui définit qui est défenseur des droits de l'homme dans notre pays, et quelles sont ses missions. Les gens, par moments, ça donne à des histoires telles que vous pouvez voir quelqu'un, l'un des quatre matins, il est au parquet, comme quoi il va rencontrer le magistrat parce qu'on a arrêté quelqu'un. Non, je viens parce que j'ai appris que vous avez arrêté monsieur X, je viens pour plaider sa cause. Ça, ce n'est pas le travail d'un défenseur des droits de l'homme. Vous le voyez aussi au niveau du parquet, pas seulement par rapport aux conditions de détention ou bien à la violation des droits de la personne interpellé ou arrêté, mais vous voyez ces gens-là passer un peu au niveau des offices, au niveau de la police, ils font pratiquement le travail des avocats ou des défenseurs judiciaires. C'est comme ça que nous disons, avec l'avènement de la loi, nous pensons que les uns et les autres seront fixés et ils sauront quelles sont leurs missions et quelles
les limites de leurs missions. Merci beaucoup. Merci Alidor. Nous vous gardons également en ligne, le temps d'écouter Maître Edmond, et puis on reviendra à notre invité avant de vous libérer. Maître Edmond, vous êtes en Bandaka.
Oui, bonjour JR, bonjour également professeur Kisegio Bekier, passé aussi à l'université de Manarène pour les enseignements, et bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, quel est votre avis dans cet échange de citoyens?
Je pense que le travail de défenseur des droits humains, je pense que comme nous le constatons tous, pour les défenseurs qui sont organisés, par exemple les cas de ACAJ et les autres, vous voyez que ce sont des organisations de défense des droits humains qui sont reconnues, constituées en des organisations non gouvernementales, et je pense que vous allez voir que le travail que ces gens font, par exemple, c'est un travail qui est quand même assuré et qui est respecté par les autorités publiques. Et je pense qu'aujourd'hui, si le travail des défenseurs des droits humains n'est pas vraiment respecté, c'est exactement parce qu'il y a du désordre. Il suffit seulement que les personnes suivent une formation de 2 jours sur la procédure pénale, sur l'organisation judiciaire, et ces personnes s'appellent abusivement défenseurs judiciaires. Et la plupart de ces personnes, vous les trouvez, sont des militants des partis politiques. Ça pose un problème. Alors le travail des défenseurs judiciaires, c'est un travail qui nécessite d'abord la maîtrise importante de règles du droit, bien sûr la procédure pénale, le droit pénal, l'OCG, les autres notions de droit, et aussi ces personnes doivent connaître les devoirs, parce que lorsqu'on dit défense des droits humains, donc on a les droits qui doivent être promus, et également on a les devoirs, et ce qui pose un problème, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui travaillent, comme le professeur l'a dit, en solo, donc d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, et ça pose
un problème.
Et à la question posée, parce qu'il y a une question que le prof a répondu, au sujet du comportement des personnes, des policiers par exemple, je pense que même le code de procédure pénale permet à toute personne en route, lorsque vous constatez une personne en train de commettre une infraction, vous avez le pouvoir d'appréhender la personne, de l'acheminer à l'office le plus proche. Donc c'est prévu dans la loi. Mmh. Et je pense que si aujourd'hui la loi que le professeur a proposée arrivait à pouvoir fixer les statuts, bien sûr, de chaque personne qui doit être défenseur des droits humains, je pense que ce serait une bonne chose.
Voilà. Alors, maître Edmond, si on peut laisser le temps, accorder le temps, un petit temps, au professeur Jean-Paul Seguiobé, de pouvoir éclairer un peu la lanterne des uns et des autres sur les préoccupations des uns et des autres. Professeur, vous venez d'écouter maître Alidor, maître Omar et puis maître Edmond. Alors, nous sommes vraiment pas dans les barreaux, hein, mais bon, ils ont préféré quand même intervenir et éclairer aussi, apporter leur petite réflexion. Alors, comment réagissez-vous?
Merci beaucoup. Je salue Edmond et tous les amis de Mbandaka, il y a quelques temps.
Curieusement, tous se sont retrouvés dans les auditoires où vous avez enseigné.
Oui, oui, c'est des bons séjours et des bons souvenirs en Mbandaka aussi. Et ils ont raison. Quelque part, lorsqu'on a fait l'état des lieux, on a constaté que les défenseurs des droits de l'homme, surtout dans les villages ou dans les milieux reculés, s'est substitué à la police ou s'est substitué à une autorité judiciaire. Et quelqu'un m'a même dit, nous a dit que, bon, on lui amène
des chèvres, des moutons.
Bref, et quand il y a quelque chose, en fait, c'était un surhomme. Et là, ça a posé un problème. Effectivement, c'est pas ça le travail de défenseur des droits de l'homme. On a voulu corriger, on a voulu recadrer, donner un statut à chacun et éviter évidemment qu'il y ait cet amalgame. Mais en même temps, l'inquiétude de penser que le défenseur des droits de l'homme se confondrait à un défenseur judiciaire ou à un avocat est légitime. Mais on a essayé au niveau de la loi de pouvoir effectivement mettre chacun à sa place. Vous verrez que le défenseur des droits de l'homme ne va pas aller défendre devant les instances judiciaires, injusticiables. Ça reste l'affaire de l'avocat du défenseur judiciaire. Mais on a dit que le défenseur des droits de l'homme peut pouvoir orienter les victimes de violations des droits de l'homme auprès des instances judiciaires. Orienter ne signifie pas défendre devant les instances. Il y a une nuance. Il peut bien orienter. Et là, cela suppose qu'il connaît plus ou moins un minimum de procédures. On ne s'improvisera pas dans ce domaine-là, comme je crois Edmond l'a dit, Omar. Mais en même temps, le défenseur des droits de l'homme, c'est aussi une innovation de cette loi. Il peut également saisir les mêmes autorités judiciaires seulement lorsqu'il y a un mandat de la victime. Seulement ça. Et là on s'est référé à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, de certaines cours, la Cour africaine des droits de l'homme.
Donc un défenseur des droits de l'homme peut jouer aussi un rôle d'une clinique judiciaire.
Ils consultent et ils orientent. Mais ils peuvent tout simplement orienter ou donner, essayer d'expliquer à la victime les droits qui lui sont reconnus. Mais la défense devant les instances judiciaires, évidemment, revient aux avocats et aux défenseurs judiciaires. Mais il y a aussi un autre point. Les défenseurs, et là on a voulu vraiment insister là-dessus, les défenseurs des droits de l'homme visitent les lieux de détention, accèdent sans entrave aucune, et ça ce sont les mots de la loi, aux détenus et constatent les conditions carcérales. Bien sûr que les avocats
qu'on
le font.
Permette, hein.
Non, non, mais là maintenant on a voulu que ça soit ainsi dit dans la loi
pour
éviter toutes ces pratiques d'entrave, de blocage auxquelles les défenseurs de droits de l'homme se retrouvent. Mais comme Edmond et Omar ont dit, il faut vraiment faire la part des choses. Pour défendre un droit, il faut d'abord le connaître. On voudrait éviter de l'improvisation, mais en même temps, on voudrait rassurer les défenseurs judiciaires,
les avocats. Même si on n'a pas fait 5 ans à l'UNIKID, mais prier quand même d'aller suivre une formation.
Non, oui, on ne peut pas.
Il faut faire une formation pour comprendre un peu les béabas de tout ça dans les secteurs. Sinon, il ne faut pas s'improviser.
Il ne faut pas s'improviser. Comme d'ailleurs, je crois que dans le jour où je défendais la loi, j'ai eu à donner un exemple. Ici, on est dans une société où on s'improvise Regardez les églises, regardez
dans,
dans tous les domaines. Vous n'avez pas fait des études, mais vous vous mettez à interpréter la Bible. Ça pose un problème en termes de qualité de prestation.
Honorable Jean-Paul Seguiobé, on va poursuivre cette émission avec les autres auditeurs. Mais le temps de libérer cette première série, Maître Omar, on va quand même vous dire au revoir. Avez-vous encore un mot à placer après avoir écouté notre invité?
Rapidement, deux précisions, c'est que toute personne humaine a le devoir de défendre ce droit. Ça, c'est de manière générique. Mais de manière particulière, et défenseur des droits de l'homme au contexte de cette loi, c'est lui qui le fait de manière habituelle, permanente et professionnelle. Il a un bureau, il a des activités permanentes. Mais c'est l'apanage de tous. De deux, chaque liberté exercée a des limites. Il faut respecter la loi, de bonnes mœurs et l'ordre public. Même l'avocat, quand il prête, il ne peut pas insulter un juge. Donc, c'est bien de défendre le droit à la vie, les droits à l'économie, les droits à l'environnement sain. Il faut le faire dans le respect de l'art, car chaque domaine a des précisions. Et je voudrais finir. Il y a aussi une innovation que la loi a apportée par rapport au financement. Ces gens font un travail des titans. C'est un vrai groupe de pression qui influence les décisions de l'État. Ils doivent non seulement être protégés par l'État et par eux-mêmes par rapport à leur éthique, mais aussi être financés pour que le travail qu'ils font contribue à l'émergence de la nation. Merci très cher JR, merci à cher professeur.
Merci beaucoup Omar, à vous également. Maître Alidor, vous avez également un mot?
Oui, monsieur JR, le mot c'est que je n'ai pas entendu le professeur miser sur les privilèges dont un défenseur des droits de l'homme doit aussi bénéficier, parce qu'en tant qu'activiste des droits humains, lui-même doit être aussi juridiquement protégé pour le mettre à l'abri des interpellations ou des arrestations intempestives. Parce que vous savez, les auteurs des violations des droits de l'homme ne veulent pas qu'on leur reproche que vous avez violé tel ou tel autre droit. Alors, pour ne pas rendre plus vulnérables les défenseurs des droits de l'homme, on devait aussi, et il doit aussi être bénéficiaire de privilèges de poursuite. Donc, pour le poursuivre, par exemple, il faut que le procureur général puisse donner l'autorisation et ne pas permettre que n'importe quel officier de police judiciaire ou quel officier du ministère public puisse l'emballer. Ça, c'est aussi un point. Le deuxième point, monsieur Gérard, il faut aussi qu'on puisse tenir compte du niveau d'études. Oui, la formation juridique, c'est un problème. Mais déjà, au départ, il faut que la personne ait un niveau d'études. Au minimum, un diplômé d'État peut devenir défenseur des droits de l'homme. Mais si n'importe qui peut devenir défenseur des droits de l'homme, c'est là que ça pose problème, parce que même le rapport qui sera en train de fournir, ces rapports-là sera toujours biaisé, avec beaucoup de difficultés pour collecter les données, pour rapporter même les violations qui sont constatées, et par voie de conséquence, ça ne pourra pas faire changer la donne. Et pourtant, le travail d'un défenseur des droits de l'homme, c'est amener le changement de la situation sur terrain. Donc, toutes les violations qu'il dénonce, et c'est pour que, à la longue, la situation puisse changer et que les auteurs soient poursuivis au niveau de la justice ou soit qu'ils
Voilà, merci beaucoup, Maître Alidor, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Et puis, on va accorder également la parole à Maître Edmond, qui va placer un mot, et puis on va aller libérer. Maître Edmond.
Oui, monsieur, je pense que nous avons suivi les profs. Moi, je pense que le travail des défenseurs des droits de l'homme n'est pas comme les gens le pensent. Les défenseurs des droits humains ne remplacent pas les avocats. Les avocats ont le monopole de défense en justice. Je pense que le travail que les défenseurs font, de pouvoir visiter les prisons, de pouvoir voir les procureurs pour essayer de s'imprégner des dossiers, je pense que le monitoring, c'est prévu dans les systèmes de défense des droits de l'homme. Moi, je pense que le professeur qui est là, qui est l'universitaire de la loi, doit en principe mettre un accent particulier sur les responsabilités de défenseurs. Ouais, même dans la liberté de presse, par exemple, vous voyez qu'on a mis une responsabilité de la presse ou des acteurs de médias sans droit. C'est la même chose qu'on met une responsabilité, parce que nous constatons que beaucoup de défenseurs sont militants des partis politiques et qui sont dans contre telle autorité, et il y a des dénonciations calomnieuses, il y a des dénonciations qui sont faites en violation de la loi, et ce qui n'est pas aussi correct, parce que les défenseurs des droits de l'homme ne protègent pas seulement les droits des populations, c'est aussi les droits de l'État ainsi que des autorités publiques. Je pense que c'est dans ce sens-là que le prof doit aussi tenir compte dans sa proposition de loi.
Merci beaucoup. Maître Edmond, 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention. En direct.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Parole aux auditeurs.
Nous poursuivons Parole aux auditeurs avec vous et merci de choisir Radio Kapi. Pour vous informer, nous allons recevoir tout à l'heure Abdulaziz qui est en ligne. Bonjour Monsieur Abdulaziz.
Bonjour.
Vous êtes du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Vous êtes avec nous. Alors, est-ce qu'on peut comprendre l'apport aujourd'hui des Nations Unies dans l'accompagnement de cette loi qui vient d'être proposée au niveau du Parlement?
Merci, merci beaucoup. Merci de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir prendre la parole à l'occasion de cette journée qui, comme vous le savez, est une journée d'une extrêmement importante. Ce n'est pas par hasard que la journée des défenseurs des droits de l'homme est célébrée juste avant la journée des droits de l'homme. C'est tout un symbole. C'est, je pense, un hommage mérité qui est rendu à ces héros de l'ombre qui sacrifient leur vie, leur intégrité physique et également quelques des ressources économiques pour véritablement porter assistance et ces combattants de la liberté, de la justice et de l'égalité. Je crois que c'est un hommage mérité qu'il faut leur rendre. Ils sont nombreux et ils sont dans les rédactions. Ils prennent les micros comme vous le faites. Ils sont dans la rue, ils sont dans les écoles, ils sont dans les tribunaux, les cours des tribunaux. Ils sont un peu partout dans tous les segments de la société et le font. Et c'est un concours qui est apporté à la responsabilité qui incombe à l'État. Je voudrais rappeler que la responsabilité de protéger les citoyens et leurs droits incombe à l'État. Donc, si des individus dédient leur vie, leur temps et leurs ressources à cette activité, évidemment, c'est un concours qui est porté à l'État. Et à ce titre, il mérite protection. Donc, alors, je voudrais aussi saluer la présence de l'honorable
Jean-Paul Seguiobé.
Vraiment, Seguiobé qui a joué un rôle extrêmement important et qui, aujourd'hui, peut être, je pense, très fier d'avoir pu contribuer à porter cette proposition de loi qui a passé des étapes assez importantes en termes d'examen au niveau de l'Assemblée nationale, qui nous rend optimistes que pour une fois, on aura finalement une loi qui est conforme aux standards internationaux et qui répond véritablement aux aspirations de la communauté des défenseurs des droits de l'homme et réellement de nous, les partenaires internationaux, que soutenons le pays pour véritablement avoir un cadre protecteur des droits de l'homme. Donc nous avons soutenu depuis même la première proposition de loi qui malheureusement n'avait pas pu, ne répondait pas tellement à certains critères et qui n'a finalement pas été adoptée à l'identique par les deux chambres. Cette nouvelle formule, elle a été portée par la société civile, la CNDH avec et d'autres entités, que je pourrais les citer, elles sont nombreuses ces entités. Nous y avons contribué le soutien heureux que nous avons reçu de la part des membres de la commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale et l'endosseur qui est avec vous ce matin et qui joue un rôle extrêmement important. Donc, c'est tout un soutien en termes de plaidoyer, en termes de soutien technique et en termes d'accompagnement qui a permis d'arriver à ce
résultat. Alors, M. Abdulaziz, la population aimerait se faire une idée très claire par rapport à la situation des défenseurs des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a amélioration? dans la façon de percevoir ou de comprendre les rôles que joue le défenseur des droits de l'homme à RDC. Parce que vous êtes aux côtés de plusieurs partenaires pour faire ce travail. Mais qu'est-ce que vous avez constaté par le passé et aujourd'hui?
Écoutez, il y a des avancées. Je voudrais dire qu'en réalité, il n'y a pas une progression linéaire. En ce sens que, vous savez, le défenseur des droits de l'homme est malheureusement le partenaire occasionnel de n'importe quel acteur politique ou sécuritaire, en vérité. Parce que vous dites des choses, vous prenez des positions dans lesquels certains se retrouvent à un moment donné de leur situation. Ils peuvent, leur situation ou leur position politique changeant, peuvent vous percevoir comme étant une menace pour leur autorité, leur pouvoir, leur position et autres. Donc, c'est du fait qu'en réalité, on ne peut pas avoir une situation linéaire en termes de, en ce qui concerne, par exemple, la protection des défenseurs des droits de l'homme. Comme j'ai dit, les bourreaux, les victimes d'aujourd'hui ou d'hier qui ont été accompagnées par les défenseurs des droits de l'homme, souvent deviennent demain leurs bourreaux. Que véritablement, ces victimes-là se retrouvent dans une position où véritablement les remarques, les critiques, les prises de position ne les arrangent plus. Donc, pour dire qu'il y a la protection est toujours
voilà. Monsieur Abdoul, si vous le permettez, on va vous garder en ligne le temps peut-être de parcourir encore cette deuxième série des auditeurs. C'est la population, hein. Nous allons recueillir leur point de vue par rapport à leur façon de voir les choses hier et aujourd'hui. Il y a François qui nous a rejoint, il y a également Niembo qui nous appelle de Maniema. Alors Soupi Niembo, je commence avec vous. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Joël JR et bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio Capi. Moi, je voulais dire ceci. Vous savez, notre pays, le Congo, ne peut pas avoir une liberté tant que la justice de notre pays est étouffée par les hommes politiques. Vous savez, notre justice ici n'est pas totalement ou réellement exercée par les hommes politiques. Ce sont ces hommes-là qui étouffent notre politique du Congo. Ces hommes, je vais vous donner un exemple.
Oui, rapidement, soyez précis, Soupi.
Oui, quelqu'un d'un parti politique, il est en train de faire un sort, et avec ce sort-là, on l'arrête. Son dossier va au niveau du parquet ou à la police. Mais vous verrez, son honorable, ou soit une autorité, il est en train d'instruire les parquets ou soit la police et son membre est relâché. La justice ne suit pas ou ne...
Alors, vous posez là la question. Voilà, Soupi, vous avez eu votre temps. Merci beaucoup. Vous posez la question sur la justice. On va prendre François Okunji. François, bonjour.
Bonjour, M. Longambo. Bonjour à Mme Christine Kabuya. Bonjour aussi à l'invité qui est avec vous dans les studios de la Radio Capi. Moi, par rapport à ce sujet, je disais que les droits de l'homme en République démocratique du Congo est inféodé. Et pourtant, il est dit que la justice élève la nation. Les acteurs des droits de l'homme et ceux de la justice civile sont intimidés par le pouvoir. Nous en avons mis des preuves, si vous les demandez. Monsieur Jules Lungem, comment voulez-vous, vous qui êtes journaliste, chevalier de la plume, à la radio Capi, RTL 50, digital, les chaînes de Chikapa, de Kananga, partout ailleurs. Tous ces journalistes ici font partie de la société congolaise. D'où ils méritent, ils ont eu droit à la protection, ils doivent se jouir de certains droits. Mais imaginez-vous, mais si les journalistes qui sont à Chikapa, à Kananga, à Kinshasa, ne jouissent pas de leurs droits, il suffit seulement qu'on puisse faire une analyse qui contraire au gouvernement, mais qui est en faveur de la population. On a directement la nerf sur vous, directement les agents de la sécurité sont sur vous. Alors pensez-vous que
donc
ça,
vous,
c'est
un droit? Vous appelez à la sensibilisation de tous, parce que même
non, mais demain, c'est le 10 décembre 2022, comme on le dit toujours. On va célébrer la journée internationale des droits de l'homme. Nous avons même les ministres des droits humains au gouvernement, Sama Lokonde, ici. Je pense, si je ne vois pas, M. Fabrice Pouella. Voilà. Mais ce qui s'est fait sur le terrain, c'est le contraire. Nous lançons un SOS au Félix, à M. le président de la République, Félix Tshilombo, d'instruire beaucoup plus son gouvernement, qui est en train de marcher sur le pied du gouvernement précédent où on décriait l'injustice et consorts. Je vous donne un exemple. Si le Congolais était sage, c'est pourquoi nous, jeunes, nous effrayons toute la jeunesse d'être réveillés pour les élections de 2023. On doit changer la donne à l'Assemblée nationale. Je vous donne un exemple typique, monsieur.
Oui, rapidement, rapidement, au congé.
Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Il y a la guerre de M23 de forces loyalistes. Bon, qu'est-ce qu'a fait la population de Kinshasa qui va subir des massacres? Alors, est-ce qu'il y a-t-il une loi qui consacre ou qui protège les droits des civils lorsque le pays est en guerre? Il faut qu'on vote cette loi-là pour dire, même si nous sommes en guerre, mais vu que entre les rebelles et les forces loyalistes, au milieu, il y a les civils, il faut qu'il y ait une loi qui pourra protéger les civils en cas de guerre. Est-ce qu'il y en existe? Je ne crois pas, M. Gérard, à moins que vous ayez une information là-dessus.
Quand je recevais dans ce studio honorable Jean-Paul Seguiobé, député élu des Rutshuru, je me suis posé la question à Rutshuru, avec des petits soucis qu'il y a là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui les droits de l'homme est respecté? Bon, est-ce qu'aujourd'hui aussi les gens auront la compréhension de cette question pour protéger les civils et aussi passer le message? Merci beaucoup François Okunji. On va prendre un auditeur avant de revenir dans ce studio avec un autre, je crois c'est qui? C'est Kalo Kaloji. Voilà, alors on revient dans les studios avec Jean-Paul Seguiobé. Réaction après avoir écouté les uns les autres et même M. Abdoul Aziz qui est d'ailleurs en ligne, qui vous écoute.
Oui, je voudrais d'abord rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. En parlant de Rutshuru, ce n'est pas de petits soucis, JR, c'est de gros soucis. C'est un drame que les gens de Rutshuru vivent. Et là, vous voyez l'importance d'avoir les défenseurs des droits de l'homme. Les crimes qui ont été commis, c'est l'actualité aujourd'hui. Je pense que davantage pour que cela soit compris et soit connu
parce
de
qu'on imagine la difficulté qu'a aujourd'hui un défenseur des droits de l'homme dans cette partie du pays.
Absolument, les défenseurs des droits de l'homme sont les malvenus dans cette région-là. Mais c'est là qu'il faut travailler. Et je crois que la loi ici a toute sa pertinence parce qu'il faut protéger cette personne-là. Et là, pour moi, je dis, et elle est même actuelle, elle est plus qu'urgente pour que... Et il n'y a pas que seulement Rutshuru, ailleurs, dans plusieurs coins du pays. Donc, je voudrais remercier en même temps aussi tous les intervenants. Je commence par Abdoul Aziz, que je salue. Et je remercie aussi parce que je sais que le travail d'accompagnement qu'ils ont eu à faire est absolument remarquable. Il mérite d'être remercié. Et je voudrais dire à toute l'opinion que de moi-même, je n'aurais pas pu arriver là où je suis arrivé sans le concours de tout ce monde.
Mais il faut le souligner que vous avez bénéficié énormément de soutien de vos collègues députés.
Oui, eux aussi. Je crois qu'il faut leur dire merci. Dire merci à l'Assemblée nationale qui a pu comprendre après les plaidoyers que j'ai eu à faire.
Parce qu'on regarde de l'histoire, de l'historique, des projets de loi en passant par la loi Moulaïla et jusqu'à aujourd'hui. Mais on se rend compte finalement qu'il y a eu vraiment un travail âpre, un travail ardu. Il fallait le concours, la compréhension commune, que tout le monde puisse adhérer au projet.
Oui, absolument. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail collectif. Mmh. Abdelaziz l'a dit et moi-même j'ai dit par rapport à ce que les collègues députés ont eu à faire. Eux-mêmes ont eu à se mobiliser. Je vous dis que c'est une loi qui était portée pratiquement par un grand nombre et c'était à l'unanimité que la proposition a été acceptée lors du débat général. Et là, Abdelaziz a raison. Les contextes où la situation des défenseurs des droits de l'homme, c'est pas linéaire.
Les victimes d'hier deviennent
et là, c'est important qu'on les souligne. Je l'ai dit dans mon mot quand j'ai présenté. Aujourd'hui, nous avons les dirigeants d'hier qui se retrouvent en difficulté et qui ont besoin du concours des défenseurs des droits de l'homme. Mais lesquels défenseurs des droits de l'homme étaient malmenés par les mêmes...
C'était considéré comme...
Les mêmes personnes.
Voilà,
les gens aujourd'hui au pouvoir, mais ils ont bénéficié du travail des défenseurs des droits de l'homme hier. Et aujourd'hui, ils deviennent de plus en plus réticents ou, j'allais dire, ils n'arrivent plus à accepter la critique, comme on l'a dit, des défenseurs des droits de l'homme, alors que réellement, ils sont peut-être ceux qui sont aujourd'hui, grâce aussi au travail du défenseur
des
droits
de l'homme. Mais le fait qu'on en arrive là, et coup de chapeau aussi à la politique, hein, qui a laissé, je pense qu'il y a quand même eu moins d'influence.
Mais c'est pour ça que je vous ai dit que le contexte politique était de plus favorable. je crois qu'il faudra aussi le souligner. Mais il y a encore un grand travail à faire. Donc l'utilité de cette loi, c'est aussi pour répondre à encore à toutes ces difficultés que nous avons. Et il y a, je crois, Soupi qui est revenu sur la justice. Mmh. Et même, je crois, Okunji est revenu aussi sur le rôle de la justice qui doit élever la nation. Dans ce domaine-là aussi, je crois qu'il y a un grand travail à faire. Et là, les défenseurs des droits de l'homme ne doivent pas dormir. Les défenseurs des droits de l'homme doivent pouvoir amener à ce que la justice soit améliorée totalement. La justice est un des grands piliers du développement d'un pays. Et effectivement, alors, tout ce qui ne marche pas, je crois que rencontre un tout petit peu les préoccupations ou doit rencontrer le travail des défenseurs des droits de l'homme.
Alors, on va écouter deux auditeurs et puis on reviendra à vous et à M. Abdoul. Kalo Kalonji, vous êtes avec nous, Mouchmaï.
Oui, bonjour M. Gier et bonjour aux auditeurs. Et c'est là qui aime cette émission.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution à ce niveau d'échange, citoyen?
Vous savez que, d'abord, je commence par la journée en soi. Moi, je me suis toujours dit, si chaque année, nous avons cette habitude-là de célébrer cette journée consacrée aux droits de l'homme, je me dis, il y a certains coins où on ne doit même pas le faire. Parce que quand on célèbre, c'est-à-dire...
Oui, quand vous dites que dans certains coins, on ne va pas célébrer, vous faites allusion à quoi, Mouchmaï?
Monsieur Gilles, c'est partout. Vous savez que quand nous parlons des droits de l'homme...
Mais quelle est la situation en Mbujimayi?
Non.
Les droits de l'homme sont bafoués? Les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas...
Non, en termes des droits de l'homme en Mbujimayi, je ne peux pas vous dire, mais nous avons connu ça. Nous avons connu ça avec les régimes, comme vient de le dire votre invité. Nous avons connu trop de problèmes. Et dans ces histoires-là, ce qui m'étonne, c'est parce que quand nous trouvons que ces gens-là, aujourd'hui, marchent à l'aise, vous savez... Dans ce que nous appelons droit de l'homme, M. J.R., parce qu'il y a quand même des avancées au niveau de l'actuel régime, bien sûr, mais il ne faut pas oublier, parce que si nous parlons que le nouveau régime est en train de faire des avancées, mais il y a d'autres. Quand nous parlons à l'est, là, ce qui se passe là, effectivement, on est en train de bafouer les droits de l'homme. Mais ce que j'ai dit, je dois d'abord remercier d'abord les défenseurs des droits de l'homme. Vous savez, si aujourd'hui l'actuel régime est là, effectivement, ces gens-là ont fait des efforts. Je ne peux pas citer leurs noms vraiment, mais nous connaissons quand même. Il y a des gens qui ont même perdu leur vie, comme les Chebe, il y a tout ça. Mais je me dis, avec l'actuelle proposition de loi, moi je me dis, tout le monde, que ce soit vous là, que ce soit moi, nous devons être les défenseurs de l'homme. On ne peut pas dire défenseur de l'homme comme s'il y a une catégorie déjà là. Non, tout le monde doit défendre les droits de l'homme.
Merci
moi,
beaucoup.
Je me dis, dans ce pays, tout le monde doit être
merci.
Des défenseurs des droits
voilà,
de l'homme.
Voilà, merci beaucoup, Kalo. On ne saura pas aller avec vous très loin. Le temps nous fait défaut. On va écouter Peter, à qui on va accorder également la parole. Il va placer un mot et puis on va revenir à nos deux invités pour clôturer cette émission. Monsieur Peter Mabudi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Monsieur Gilles, bonjour à nos invités et à tous les amis qui ont déjà émis un point de vue, Monsieur Gilles.
Rapidement, placez un mot.
Merci Gilles de m'avoir associé. Je pense que les amis ont tout dit, hein, mais je pense Monsieur Gilles que les droits d'abord de droit et les droits de l'homme, c'est un droit naturellement et puis constitutionnellement reconnu. Tout le monde a droit, notamment à la vie. C'est d'abord la vie est sacrée. Mais il se pose un problème, M. Gilles, par rapport aux défenseurs. C'est, tout le monde est défenseur, comme les amis l'ont dit, mais il y a un problème. La vie n'est pas sacrée au Congo. La vie n'est pas sacrée par rapport à ce qui se passe à l'Est. Consort, M. Gilles, je pense que la vie n'a pas son sens ici au Congo. Nous devons tous travailler.
Alors... On vous donnera un autre cadre pour faire le débat sur la vie des pas sacrés. Peut-être vous nous proposez un terme. Merci beaucoup, Peter, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Voilà, à vous, c'est Guillaume, professeur. On va conclure cette émission et en même temps avec M. Abdoul. Je ne sais pas si M. Abdoul est encore en ligne.
Oui, je suis en ligne.
Peut-être un commentaire par rapport à ce que vous venez d'écouter des auditeurs, comment pense la population? Parce que vous qui avez le travail des monitoring, est-ce que quand vous écoutez comme ça la population parler, quelle est l'impression que ça vous fait? Des sentiments que vous avez?
La population, elle est très alerte. Je connais ces détenteurs. Je crois que c'est une bonne consolation pour, comme je dis, pour tous ces hommes et ces femmes qui ont dévoué leur vie, leur temps, leur intégrité physique à défendre les droits et les libertés. Je crois que c'est extrêmement important que quand tel hommage puisse être rendu. Il y a des choses à faire et je crois que tout le monde comprend qu'en vérité, le bien qui médias à véritablement s'investir en faveur des droits de l'homme, à pouvoir les défendre, les promouvoir partout dans le pays, parce qu'il s'agit effectivement d'un droit naturel qui est inhérent à tout individu, nous naissons avec. Donc je pense que c'est important. Et c'est une condition, si nous voulons développer nos pays, si nous voulons développer nos sociétés, il est important de travailler à créer plus de liberté, plus de justice et développer et protéger davantage les droits de l'homme. Je pense que c'est le message qu'il faut tirer de tout ce qui a été, tout ce que nous venons d'entendre. Au-delà de ça, je voudrais dire, vous m'avez posé la question, je dois à la vérité de dire que quand même, nous continuons toujours à être sollicité par des défenseurs des droits de l'homme qui sont victimes d'intimidation, d'harcèlement et d'arrestation arbitraire ou de menaces d'arrestation arbitraire. Ça, il faut qu'on le souligne, nous devons la vérité de le dire. Il est vrai que les situations se sont améliorées, mais nous n'avons pas encore atteint un niveau où on peut dire, effectivement, voilà, un niveau où on peut dire, voilà, tout est vert, nous sommes dans une situation idéale. Il faudrait que tout le monde comprenne sa vérité. Ça ne sert à rien. Demain, on va se retrouver de l'autre côté. Et je pense que l'honorable Seigneur Bel a dit, ceux qui hier s'entraînaient au défenseur des femmes sont au-delà même qui les sollicitent aujourd'hui.
Voilà, il y a beaucoup à dire, monsieur Abdoul Aziz. On ne saura pas aller plus loin avec ça. Peut-être on y reviendra en début de l'année prochaine, parce que cette émission sera rediffusée pratiquement la dernière semaine de l'année 2022 parmi des best-of de l'émission Parole aux auditeurs. Il est temps pour nous d'accorder également les derniers mots au professeur Seguiobé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre proposition de loi et aujourd'hui la perception et collective et commune sur l'appellation des défenseurs des droits de l'homme?
Moi, je pense que de tout ce que nous avons écouté et compte tenu de la réalité du contexte, la loi reste urgente, nécessaire et pertinente. Et les gens ont compris l'importance du travail des défenseurs des droits de l'homme. C'est toute personne. Et les droits de l'homme restent un ingrédient indispensable pour l'avancement vers un état de droit démocratique. Et Abdoulaziz l'a dit aussi, le développement d'un État passe aussi par le respect des droits fondamentaux. Et donc, je crois que la loi, la proposition ici que nous avons eu à faire, elle rentre dans la ligne droite de pouvoir amener l'État congolais vers des objectifs beaucoup plus nobles. Mais je dois avouer que ce n'est qu'une étape. Une étape au niveau de l'Assemblée nationale. La loi continue son chemin au niveau
du
processus parlementaire. On va l'envoyer au Sénat. Et je voudrais justement demander le même appui, le même appui que j'ai eu, dont j'ai bénéficié, qu'on puisse l'accompagner jusqu'au Sénat et arriver à une adoption sans heurts, de sorte que le jour où le président de la République va pouvoir la promulguer, c'est là que moi je dirais, ouf, là on a eu à faire du bon travail. Mais en même temps, promulguer la loi... Peut-être qu'on y reviendra. Ça ne sera que les débuts. Il faudra absolument la mettre en application. Mais pour le reste, je voudrais encore une fois de plus remercier tout le monde qui m'a accompagné, mais aussi la population qui montre la nécessité de pouvoir
avoir cette loi. Parce que vous avez suivi Omar, qui a lu la loi, qui a apporté quand même quelques...
Ah oui, il a eu raison. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Même Edmond est revenu. Mm-hmm. Vous verrez qu'il y a un mécanisme qui... non seulement qui protège, mais qui responsabilise aussi ses défenseurs, et notamment le chapitre 4. On protège, qui intervient, mais c'est au niveau du procureur de la République et pas au niveau du procureur général, comme le disait Edmond. Mais bref, vous avez quelque chose d'équilibré et qui voudrait responsabiliser aussi bien les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi le gouvernement. Et je crois que c'est une loi qui, si jamais elle était adoptée et promulguée par les chefs de l'État, pourra apporter encore un plus dans l'arsenal législatif de notre pays.
Honorable Jean-Paul Seguiobé, député élu de Rutshuru, merci d'être venu nous visiter. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On prend rendez-vous avec vous demain dans une longue série des émissions de fin d'année pour vous permettre de décrypter l'actualité, la question de la sécurité et pourquoi pas la question de l'économie. Prenez rendez-vous avec nous, toujours de la parole aux auditeurs, sur la fréquence de la paix. À très vite.